Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une jeune femme d'aujourd'hui qui traverse positivement sa carrière, qui connaît les ressources nécessaires pour le faire et qui est là pour nous en parler. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Hinchkili, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Lala Hint, comment ça va?
Alhamdoulilah, ça va bien, merci. Et merci à vous de votre invitation.
Ben, en tout cas, moi, je suis très heureuse de vous recevoir. Je sais que vous êtes une femme très généreuse. C'est ce qu'on m'a dit lorsqu'on m'a parlé de vous. Je sais que vous aimez partager, vous aimez donner de votre expérience aux autres. Et d'ailleurs, c'est l'une de vos mentees. C'est comme ça qu'on les appelle ?
Tout à fait,
absolument, oui. Qui m'a parlé de vous et qui m'a dit « cette femme m'a beaucoup aidée ». Et ça fait chaud au cœur parce que, justement, je discutais aussi avec une femme récemment, on disait « parfois les femmes ne sont pas forcément, malheureusement, agréables les unes avec les autres », et notamment dans le milieu professionnel. Mais il y a toujours ces beaux exemples qui viennent démontrer le contraire. Hinchkili, pour vous, justement, venir en aide aux autres femmes, ça représente quoi ?
Pour être honnête, je ne me suis jamais réellement posé la question, enfin en tout cas mis comme, disons, focus principalement de venir en aide aux femmes. Moi, comme vous l'avez dit, j'ai eu la chance dans mon parcours de faire des belles rencontres et d'avoir justement été soutenue, voire mentorée, coachée par des personnes exceptionnelles hein, qui ont donné de leur temps, qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de, voilà, justement de prendre confiance aussi en moi et qui ont vraiment été, voilà, je pense, des personnes importantes dans ma carrière et dans l'accélération un petit peu aussi de ma carrière. Et je trouve que, voilà, pour moi, c'est naturellement un retour normal et que j'ai voilà, tout au long de ma carrière, quels différents postes de responsabilité que j'ai pu avoir, naturellement ça s'est fait et de pouvoir être dans cette dynamique de partage, d'accompagnement, de coaching, d'écoute, de bienveillance de mes collaborateurs, qu'ils soient hommes ou femmes, vraiment, qu'ils soient hommes ou femmes, je pense que j'ai accompagné autant d'hommes que de femmes. C'est le plus important. Après, c'est peut-être aussi parce que je n'ai sincèrement eu une conscience très tardive de la problématique de la place de la femme, on va dire, ou en tout cas des difficultés que peuvent auxquelles peuvent faire face certaines femmes dans leur carrière.
C'est une forme de naïveté ou de chance que vous aviez eue jusque-là?
Non, je pense deux choses parce que je me suis posé cette question. La première, c'est que oui, il y a sûrement le facteur chance. Hein, j'ai eu la chance d'être avec des personnes. La plupart des managers hommes d'ailleurs, hein, qui franchement m'ont fait confiance et ne m'ont jamais fait sentir que j'étais différente parce que j'étais une femme ou que j'étais moins compétente ou que j'étais moins méritante ou autre. Donc il y a sûrement le facteur chance, mais pas que, je pense. Et je pense que c'est aussi beaucoup lié quand même à la posture et c'est peut-être aussi lié à l'éducation. C'est vrai que moi, j'ai une éducation, je suis enfant unique. Hein, et mon papa, depuis toute jeune, voilà, m'a toujours transmis et en tout cas dit voilà, que tu es forte, tu peux être aussi forte qu'un homme, tu peux faire les choses de la même manière, il faut avoir confiance en soi. Et après, dans sa posture, je pense que ça change énormément. Et j'en suis, c'est pas juste que je le pense, c'est que j'en suis convaincue. J'ai quand même fait un passage dans un environnement qui est assez particulier, dans l'administration, à un poste de responsabilité où il y avait très peu de femmes. Hein, donc, sur une quarantaine de secrétaires généraux, on était deux femmes. Donc, on dépassait quasiment jamais ce quota. Et en fait, moi, je n'ai jamais senti de différent. Je ne me suis jamais sentie marginalisée. Le sujet pour moi, c'était est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être compétente,
est-ce que je vais délivrer. Ouais.
Voilà, c'est, je veux dire, indépendamment du fait d'être une femme. Et même si on était minoritaire, j'ai eu l'estime, le respect de mes pairs, de mes collègues, hommes aussi.
Alors, donc, si vous permettez, par rapport à cette période, justement, en 2008, lorsque vous êtes nommée secrétaire générale au département du tourisme et que on lit partout dans la presse « première femme à occuper ce poste », quand même, c'est 2008. Hein. C'est, je veux dire, ça ne fait pas très longtemps. C'est récent. Et pourtant, en 2008, vous avez été la première femme. On ne parle pas des années 60, on ne parle pas des années 70, on parle...
Franchement, sincèrement, je ne suis pas sûre que... du tourisme, oui, du département du tourisme.
Du département de tourisme, absolument, je parlais de ça.
Voilà, du département du tourisme, il y en a eu, effectivement, il y en avait eu quelques-unes, mais c'est vrai que, de toutes les façons, on dépassait jamais, on n'était jamais deux ou trois en même temps. Ce niveau de poste de responsabilité dans l'administration, il y avait très peu de femmes. Et je vais vous dire une chose, mon constat aussi, en tout cas dans l'administration, pour les personnes en tout cas qui ont fait leur carrière dans l'administration, moi j'ai aussi rencontré beaucoup de femmes, et c'était aussi mon combat en interne, qui ne souhaitaient pas avoir plus de responsabilités, qui ne souhaitaient pas être plus exposées. Mmh. Donc, je reviens quand même à cette notion un petit peu aussi de à la fois de posture et puis de quelles sont nos attentes, et que je ne juge pas et que j'ai toujours effectivement respecté. Mais moi, je pense que quand on veut, on peut. On peut se donner les moyens que... Alors oui, sûrement. Et puis après, il y a certains départements où c'est plus compliqué que d'autres, où les mentalités sont plus compliquées à faire évoluer. Mais personnellement, je suis de la catégorie des personnes qui pensent que c'est nous qui avons les moyens de faire nos ambitions et de faire évoluer les choses.
C'est quoi justement quand vous dites c'est entre nos mains, nous avons les moyens de faire bouger nos propres lignes, pour vous, Hinchkili, ça passe par quoi? Au-delà de la pensée et de la volonté.
Ça passe par le travail. D'accord, vraiment, ça passe par avoir cette capacité de toujours continuer à apprendre, à vouloir être performant, donc à beaucoup s'investir, parce que c'est ce qui permet d'accroître sa légitimité finalement, d'accord. La détermination, je pense qu'elle est la résilience. Comme je disais, c'est la confiance en soi. Clairement, c'est moi, ma confiance en moi, je vais pas la chercher à travers le regard des autres. C'est par contre, c'est vraiment je vais faire une intervention quelque part. J'ai bien pochiné mon sujet, que je suis à l'aise, j'ai parfaitement confiance en moi.
Ça, c'est très bien.
Avec le travail.
Mais vous avez justement glissé un message très important. Lorsque j'ai bien peaufiné mon travail, mon sujet, c'est-à-dire que avec toutes ces années d'expérience, avec tous ces titres que vous avez pu accumuler, avec toutes ces fonctions dans la finance, et pourtant, quand vous avez une intervention à faire, vous la préparez.
Ah, toujours. Alors, je vais vous dire mon mentor.
Oui.
Je pense que ça fait partie des premières choses. Qui est vraiment mon mentor depuis 25 ans et qui a occupé lui aussi des grandes responsabilités, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public. m'a vraiment appris cette règle de base. On peut avoir toute l'intelligence du monde, on peut avoir tout le, je veux dire, background intellectuel du monde, on peut avoir des facilités de communication, c'est très bien, c'est un plus, hein, si on doit par exemple faire une intervention, mais on ne peut jamais, si on veut être en tout cas percutant, si on veut, on ne peut jamais être dans l'approximation. Donc ça se prépare. Moi, je reste convaincue, c'est ça que je remets cette valeur au centre et qui est une valeur qui m'a beaucoup aussi été transmise par mon papa, qui est vraiment la valeur du travail, qui est voilà. Et à mon et comme vous le disiez, et je pense que c'est en même temps l'intérêt, c'est que là, on peut avoir 25 ans, 30 ans d'expérience. Bien sûr, on capitalise sur des compétences, sur du vécu, sur voilà, du savoir-faire, mais on continue d'apprendre tous les jours. Et moi, en tout cas, c'est ma plus grande satisfaction, c'est que j'ai eu la chance d'abord dans ma carrière d'exercer dans des secteurs très très différents. Donc ça m'a donné une grande richesse et je continue d'apprendre tous les jours. Et je continue d'apprendre au contact de y compris de mes collaborateurs beaucoup plus jeunes, parce qu'ils m'apprennent autre chose, y compris humainement parlant. Et c'est ce que j'ai aussi retrouvé et apprécié dans la démarche du mentoring. C'est-à-dire que on est dans le partage. Donc vous partagez votre expérience, votre savoir-faire, vous avez du recul. Tout ça, c'est Ça peut faire gagner un peu de temps aux personnes qui se posent certaines questions à un moment de leur vie. Mais ce que j'ai trouvé intéressant et que je n'avais pas imaginé au départ, c'est que moi aussi, je m'en suis sortie vraiment, vraiment grandie de cette démarche de mentoring parce que j'ai appris d'autres choses à travers mes mentees. Et surtout quand vous avez en plus des petits gaps générationnels c'est ça qui me plaît quoi
qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers ça parce que j'imagine que vos journées sont déjà bien remplies. J'imagine vos soirées aussi. Vous avez une vie professionnelle importante, une vie personnelle aussi, et pourtant vous prenez de votre temps pour coacher, accompagner, partager votre expérience. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ?
Malheureusement, pas autant que je le souhaiterais, déjà, malheureusement. Sincèrement, je le faisais naturellement. Comme je vous le disais, je le faisais naturellement, que ce soit avec mes propres collaborateurs, que ce soit avec des connaissances, qui, des fois, des gens comme ça... que je ne connaissais pas ou qu'on avait une connaissance commune et qui s'adressait à moi pour avoir un conseil. Et puis, il y a eu cette rencontre avec Mentorel vraiment, par hasard, par une amie commune qui m'a invitée. Et pour moi, c'était naturel parce que, je le faisais, mais de manière, j'appelais pas ça mentoring. J'avais jamais mis de nom dessus finalement, d'accord. Donc je le faisais de manière pas forcément moins peut-être formalisée, moins structurée peut-être, mais c'était tellement naturel pour moi que et comme je vous dis c'est vraiment la satisfaction du partage, de pouvoir apporter ce recul, ce la démarche de mentoring, je trouve que c'est beaucoup quand même un effet miroir, d'accord ? Parce que je me suis retrouvée très souvent dans des moments ou des étapes de ma vie où j'ai été confrontée au même questionnement. Et donc, vous avez déjà fait le cheminement.
Ouais. Est-ce qu'il y a des moments clés ? Ouais. Est-ce qu'il y a des moments clés de sa vie pour lesquels on a besoin justement d'être accompagné, mentoré.
Il y a des moments clés, mais après c'est chacun son parcours de vie et ses attentes, ses priorités. Donc c'est vrai qu'il y a quelques jalons un peu communs qu'on va retrouver. Qui sont généralement quand la femme va devenir mère ou pense à le devenir et que ça peut... on a beaucoup ces cas-là aussi. Elle commence à se dire, c'est le moment que j'ai un enfant. Mais elle ne souhaite pas sacrifier sa carrière professionnelle. Et justement, cette équation de devoir opposer épanouissement personnel avec l'arrivée d'un enfant et épanouissement professionnel, enfin, c'est assez terrible. Donc, c'est vrai que dans ces moments-là, soit avant, soit juste après avoir eu son enfant, très souvent, il y a des questionnements. Il y a l'âge aussi. Moi, je pense que je pense que la quarantaine, c'est quand même un âge assez particulier, parce que justement, à mon avis, on recentre, nos priorités ne sont plus forcément les mêmes. Généralement, les enfants ont grandi, sont plus autonomes. On va plus se recentrer sur soi, sur nous. On va s'autoriser.
J'aime bien la nuance. Exactement. On va s'autoriser. Voilà. Parfois, on vient nous perturber dans cette autorisation.
Exactement. Donc, à nous recentrer sur nous-mêmes. Ouais. Et je le vois autour de moi. Et c'est là où, effectivement, aussi beaucoup, on a ces questionnements de redonner du sens à ma vie et avoir plutôt envie de faire des choses qui sont vraiment alignées avec mes valeurs et qui vont pouvoir me nourrir intellectuellement et autres, soit carrément les personnes qui se disent finalement j'ai la quarantaine ou j'approche de la quarantaine et c'est le moment, si je dois me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est maintenant et je ne pourrais pas le faire plus tard, quoi. Et c'est la dernière chance.
Chance, exact.
Donc voilà. Après, voilà, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a ces deux jalons qu'on retrouve assez communs. Après, franchement, on peut entendre ça. Voilà.
Vous direz quoi justement à celles qui nous écoutent maintenant et qui se disent arrivées à la quarantaine, et si c'était le moment de changer de vie, vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, vous avez déjà fait tout ce processus déjà, vous-même.
Alors moi, j'ai jamais eu le courage, en tout cas, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'on est une génération qui avait plus tendance à rester dans le cadre social, etc. Et que quand je vois la génération des jeunes trentenaires aujourd'hui et des celles qui s'approchent de la quarantaine, Elles sont beaucoup plus libérées quand même de ce carcan social et un peu et franchement bravo et elles m'impressionnent. C'est les jeunes femmes d'aujourd'hui franchement m'impressionnent par cette capacité qu'elles ont de se libérer beaucoup plus par rapport à notre génération. Après moi ce que je dis et ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut oser. Je pense que moi ce qui m'a permis d'être ce que je suis et de faire la carrière que j'ai eue, c'est d'oser sortir de ma zone de confort. Et c'est pas facile. La première fois déjà est toujours la plus difficile, bien sûr. C'est parce que finalement c'est ça. Hein, quand vous êtes tout se passe bien. Vous êtes dans un environnement que vous maîtrisez, vous êtes dans un domaine de compétences que vous maîtrisez, vous êtes avec des personnes que vous connaissez, qui vous connaissent, qui vous estiment, qui vous respectent, tout se passe bien. Pourquoi changer ? D'accord ? Pourquoi changer, même si finalement vous vous rendez compte que vous aspirez peut-être à d'autres choses, et on dit oui, mais finalement, c'est pas si mal ce que j'ai, pourquoi changer, etc. Et en fait, c'est l'inconnu. Changer, je ne suis pas sûre de ce que je vais retrouver. J'aspire à des choses, mais je ne suis pas sûre que... Et sortir de cette zone de confort, en même temps, c'est ce qui nous permet, j'en suis convaincue, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'évoluer. C'est un challenge, c'est un grand challenge émotionnel. Hein, c'est des moments de doute. D'accord, c'est des moments de doute, c'est des moments de peur, ça ne se fait jamais de manière... mais en même temps, c'est ça c'est stimulant et c'est ça qui nous donne... exactement, qui nous donne aussi de l'énergie, quoi, positive.
Alors Hinch, par rapport à la maternité justement, vous avez dit tout à l'heure, moi je suis fille unique. Est-ce que ça vous a donné envie d'avoir une grande famille?
Ben non. Non, alors là, de ce côté-là, standard, deux enfants, deux garçons, et j'ai pas eu le courage de faire le troisième pour chercher la fille, donc non, pas particulièrement.
Ouais.
Non, j'ai très bien vécu mon statut d'enfant unique. Donc,
mais ça peut rassurer beaucoup de parents.
Oui, franchement, j'ai eu la chance d'avoir 100% de l'amour de mes deux parents.
Ouais.
Non, pour être honnête, je pense que qu'on commence quand on est enfant unique à sentir le poids de l'enfant unique quand on doit accompagner nos parents qui prennent de l'âge. Voilà. Donc là, toute la responsabilité repose sur vos épaules. Hein. Vous n'avez ni frère ni sœur avec qui partager cette responsabilité. Et je pense que donc c'est beaucoup plus tard que effectivement, voilà, c'est les choses se compliquent. Mais sinon, personnellement, en tout cas, voilà. Après, ça dépend des personnalités des uns et des autres et des éducations des uns et des autres. Hein. Donc vous avez des fratries qui ne sont pas forcément, voilà, qui s'entendent pas très bien.
Exactement.
Et qui finalement, voilà, vivent presque comme des enfants uniques. Donc, franchement, moi, j'ai pas de dogme, on va dire, par rapport à ce genre de choses.
Ouais.
Mais je pense qu'il faut assumer. Moi, dans la vie, moi, c'est toujours ce que je dis. Il faut assumer ses choix. Voilà. Je pense que c'est ça le plus important. Et ça revient au sujet quand j'ai assumé ses choix par rapport à ses propres valeurs, jamais renier justement, parce que difficile d'assumer des choix si on fait des choses qui sont contraires à nos valeurs ou qui nous éloignent de nos valeurs, je pense qu'on ne pourra jamais les assumer. Donc on doit toujours rester très voilà, cohérent avec nos valeurs fortes. Et voilà, et je pense que c'est comment dire... Et la deuxième chose, c'est assumer ses choix par rapport à ses propres aspirations et surtout pas par rapport aux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent penser, la société, etc. Donc, je pense que c'est les deux choses qui font qu'on va être droit dans ses bottes et bien se sentir et avancer.
Hinchkili, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.